Thaddée d'Ifre, un nom original pour un Français de souche, catholique et résistant, qui dirigera des hommes au combat pendant la guerre d'indépendance de 1948. Il fait partie de ces volontaires oubliés par l'histoire, oubliés aussi les volontaires d'Afrique du Nord, dont on s'est souvenu sur le tard dans les années 90. Thaddée fut remarqué par les officiers de la Ghana et fondera le Commando français, une histoire oubliée et retrouvée. Qui sont les hommes qui ont combattu en 1948 pour la libération de l'État d'Israël? Sont-ils tous nés en Israël ou fraîchement arrivés d'Europe? Pourquoi sont-ils tombés dans l'oubli? Pourquoi l'historiographie sioniste a-t-elle été frappée d'amnésie? C'est cette histoire que nous vous racontons. Un podcast de Michael Ilouz. En rejoignant le camp de formation de la Haganah à Satonné, pas loin de Lyon, en 1947, Thaddée d'Ifre possède déjà un sérieux bagage militaire. Il a été capitaine de l'armée du général Leclerc, administrateur colonial, et n'est plus un perdreau de l'année. À 37 ans, il dénote, plus âgé que les autres volontaires. Il va pourtant jouer le jeu et suivre de bonne grâce cette formation militaire qui lui est totalement inutile. Dans son livre, Thaddée reste muet sur ses motivations, mais on reconnaît au fil des pages une véritable fascination pour le sort de ce peuple juif qui renaît sur sa terre ancestrale après la catastrophe. Dès son arrivée à Tel Aviv, le major Tionkin lui octroie le matricule 17797 et un nouveau nom. Fini Thaddée d'Ifre, désormais ce sera Teddy Ethan. Teddy devient rapidement instructeur puis officier. Il va côtoyer de très près les plus grands, Moshe Dayan, qu'il trouve remarquable et éminemment sympathique, mais aussi Yitzhak Sadeh, fondateur de Tzahal, et Yitzhak Rabin. Teddy fréquente aussi de nombreux intellectuels, comme Arthur Kessler, l'écrivain, ou encore des peintres, Manet Katz ou Rubin. Le grand défi de Teddy sera de transformer ses volontaires nord-africains en soldats aguerris. La tâche est dure et il n'en manquera pas d'exprimer dans son livre le peu de respect qu'il a pour certains d'entre eux. Ainsi disciplinés, insolents, brutaux, grossiers, quelques-uns se livrant même au pillage, ils citent des noms et des lieux où ces comportements ont été constatés. Mais la guerre n'attend pas, au gré des batailles et des victoires, il fera le tri, ne gardant que les meilleurs, les autres seront écartés des rangs. La première opération aura lieu à Rafah, au sud de Gaza. Il y en aura d'autres, Fallujah, Khalutsa, mais aussi Beersheba. C'est à Tseilim, qui deviendra une base d'entraînement de Tsahal, que se réunit un grand conseil de guerre pour la libération du verrou de Negev. Beersheba commande les routes qui permettent aux Égyptiens d'effectuer leur liaison avec les Jordaniens et les Irakiens. C'est par là que passe l'approvisionnement en hommes et en matériel pour attaquer Tel Aviv et Jérusalem. C'est aussi la base de toutes les tribus bédouines qui sillonnent le désert. Beersheba est occupée par les Égyptiens depuis le 18 mai 1948. Nous sommes à l'automne 1948. La date de l'attaque est prévue pour le 21 octobre. Depuis le 18, Teddy scrute les photos aériennes. Ça ne lui plaît pas. La ville est ceinturée par un système de tranchées, de blockhaus, épaulée par un fossé anti-char qui la rendent difficile à enlever. L'attaque se fera de nuit. Y participeront l'aviation, la 8e et la 11e brigade, ainsi que les commandos français. Sur le papier, on prévoit une relève, des attaques de diversion et un premier bombardement à 18h. L'heure H est prévue pour 23h15. La nuit est sans lune et le terrain sans être mouvementé et ridé, précise Teddy. Mais dès le début, les contretemps s'accumulent. Le départ de Tseilim a lieu en retard. Les premiers échanges de feu auront lieu avec 5 heures de retard. La nuit prend fin. On a gaspillé l'effet de surprise. Léon, un officier, ancien légionnaire, est blessé au bras gauche par des éclats de grenade. Teddy le renvoie à l'arrière, mais il va poursuivre le combat en couvrant l'attaque depuis sa voiture. Fernand, un autre officier, a la tête couverte de sang. Il a reçu des éclats de grenade dans les jambes et à la figure. Il refuse d'être évacué et poursuit l'assaut. Francis, un petit infirmier, interpelle Teddy. « Mon commandant, qu'est-ce qui t'arrive au bras ?» demande Teddy. « J'ai une balle, mais ce n'est pas grave, rien de cassé. Venez vite. » Le lieutenant Weiler est mourant. Pour Teddy, C'est une perte terrible. Son meilleur officier, le plus brave, le plus capable, le plus calme. C'est un ancien de la division blindée de Leclerc. Le nombre des morts et de blessés augmente. À 6h15, le ciel est rose pâle. Les renforts n'arrivent toujours pas. La situation est désespérée. À peine 60 contre 5 ou 600. Les arrières sont complètement dégarnies. Une seule option, attaquer, attaquer encore, même en sous-effectif. Le commando avance et prend plusieurs positions à l'ennemi. Teddy menace de décrocher et donne un ultimatum au quartier général. Si à 7h15 les renforts n'arrivent pas, il commandera la retraite. À 7h20, enfin, trois automitrailleuses suivies d'une file de soldats pointent le bout de leur nez. À 8h15, Beersheba est tombée. Les commandos ont pris la ville, le drapeau blanc flotte sur la forteresse. Pour Tsahal, arrivé en retard, la prise fut rapide. Pour le commando français, ce fut une boucherie. Le bilan est élevé. 30 commandos sur le carreau. En décembre, ce sera la prise de Khaloutsa, au sud de Beersheba. Teddy et ses hommes entendront distinctement depuis les positions égyptiennes des ordres donnés en allemand. La guerre est finie. Un parti qui ne passera pas le seuil d'éligibilité proposera à Teddy de se présenter aux élections. Il refusera. Mais les faits d'armes du commando français resteront méconnus. Il faudra attendre 1993 et la construction d'un monument à la mémoire des volontaires étrangers pour que l'on rappelle aussi leurs souvenirs. En 2004, la ville de Beersheba dévoilera une plaque commémorative. Pourquoi cette reconnaissance tardive? Peut-être parce que les combattants étaient en partie nord-africains, peut-être aussi que personne n'attendait en Israël de raconter leur histoire. C'est maintenant chose faite.